c'était la grenouille entre 18 et 19 heures depuis le 7 octobre dernier jusqu'au 16 octobre prochain. C'est un magazine consacré à la manifestation Small is Beautiful, des spectacles, des parcours, des performances en espace public imaginé par lieu public. Une manifestation qui se déroule à Martigues, à Marseille et à Aubagne depuis le 5 octobre dernier et jusqu'au 16 octobre prochain. Ce soir, nous sommes en compagnie d'Olivier Grosse-Tête, qui est plasticien, qui a monté une installation samedi dernier à Martigues, un fardeau, une installation en carton, quelque chose que des gens ont construit avec lui et qui devait répondre à un défi, monté à 25 mètres de hauteur. Il nous dira tout à l'heure ce défi a été atteint, si cet objectif a été atteint. Mais on peut dire de lui également ses précédents travaux, qu'en 2006, il a installé d'énormes sacs plastiques remplis de 6000 feuillets manuscrits où l'on pouvait lire « C'est du travail » devant l'hôtel des impôts de Valence. Qu'il a participé à la 11e Biennale des jeunes créateurs d'Europe et de la Méditerranée, dont la nouvelle édition se déroule en ce moment en Grèce d'ailleurs, qu'il a imaginé et qu'il a réalisé une montgolfière faite avec des lettres de refus d'embauche, qu'il a fait un pont suspendu avec des ballons d'hélium et qu'il a travaillé en papillon, en poulet, en fleurs d'amandier et en avion des PV impayés. On va donc passer l'heure avec Olivier Grosse-Tête. Il va surtout nous parler de ce qu'il est venu faire à Small is Beautiful, c'est-à-dire ces constructions monumentales participatives, dont la première a eu lieu samedi dernier à Martigues, donc, et dont une autre va se construire à Aubagne samedi. Il est en plein travail, là, d'ailleurs, depuis quelques jours à Aubagne, avec des ateliers, des choses comme ça, et voilà. Dans cette émission interviennent des chroniques signées Nicolas Mémin, Laurent Petit de la NPU, Les Beaux Parleurs. Et pour commencer, c'est une chronique sonore signée Espace Sonore. Vous savez, ceux qui ont organisé ce balade en parapluie à la gare Saint-Charles à Marseille. Ça s'appelle Silence aujourd'hui.
Justement parce que c'est constant. Quoi. Et justement parce que c'est constant. Quoi. Constant. Quoi. C'est là le coup des cigales, voilà, c'est pareil, si on pouvait de temps en temps couper le volume.
Comme ça là.
C'est là le coup des cigales, voilà.
Je sais pas, ça fait bizarre. Comme ça, là.
Et là, le coup des cigales, voilà.
Ça dépend, si on le ferme, hein. qu'on l'ouvre, qu'on le ferme dans certains rythmes, au bout d'un moment, il y aura de la musique. Donc, très court, mais ça se fait.
Si on peut de temps en temps couper le volume.
Des fois, même, c'est marrant.
On le supporterait mieux, et ouais, c'est ce côté constant, là, qui est oppressant.
Après, les animaux, ils... Non, où ils se mettent tous à faire le silence. Bon, on m'a dit que quand ils arrêtent tous de faire le silence, c'est qu'il va se passer quelque chose, ils ressentent quelque chose, donc... Je sais pas, ça arrive à des moments, je vois tous les autres, tant qu'ils s'arrêtent net. C'est ça le silence. Quand il y a personne qui parle, quand tout le monde s'arrête, que personne parle.
Juste là, à l'instant, par exemple, on est dans un silence qui est assez intéressant, enfin, moi, que j'aime, quoi.
Quand on n'est pas habitué, on peut se dire qu'il va se passer quelque chose, ça peut être inquiétant, le silence, mais bon... On habite dans la campagne, quand on entend pas souvent le truc, ça va.
En ville, on a toujours l'espèce de nappe derrière, de la circulation, dans les 5 km alentour, là. actif, un gros vrombissement permanent, là, 24-24. Je préfère effectivement beaucoup l'ambiance sonore de la campagne. Et puis surtout, on n'a jamais le moindre silence ou même un silence relatif. Alors que c'est vrai qu'à la campagne, juste là, à l'instant, par exemple.
Où y a plus de bruit, à la campagne ou à la ville? Oui, à la campagne. Qu'est-ce qu'il y a comme bruit?
Des fois on travaille un peu quand
même. Non, il y a les tracteurs, je le dis moi.
Quand il y a un marteau-piqueur, par là qui tourne, il y a...
Oui, mais il y a la ville aussi, le marteau-piqueur. Oui, il y a la ville aussi, le marteau-piqueur. Oh.
Et tant qu'il y aura du bruit, ça ira.
Oui, oui.
Oui. Je veux pas qu'il chante, mon ami.
Le jour où il n'y aura plus de bruit, il n'y aura plus que des roses.
Oui. Derrière toi.
Malheureusement, quoi.
Derrière toi.
Malheureusement. Ah, ouais. On est bien ici, quand même.
Voilà, c'était la chronique d'Espace Sonore, c'est Small is Beautiful sur la grenouille, ou Small is Grenoutiful, ou Grenouille is Beautiful, ça dépend du moment. Alors, Olivier Grostette, eh bien là, je ne l'ai pas laissé dire bonjour tout à l'heure. Vas-y.
Mais non, je peux dire bonjour.
Alors, voilà, vous avez la preuve qu'il est là. Alors, on va parler avec lui bientôt de ses propositions là, dans le cadre de Small is Beautiful, mais on reçoit également ce soir, en ce début d'émission, David Mossé, qui est le directeur technique de Small is Beautiful, et qui souhaitait intervenir dans le cadre de cette émission parce qu'il a quelques remarques à faire sur l'utilisation de l'argent public dans la culture. Il a pu constater quelques anomalies, enfin quelques choses, des questions qui se posent là dans son expérience de directeur technique à Small is Beautiful. Donc David, bienvenue et on t'écoute.
Moi je voulais prendre la parole parce que bien souvent, quand on parle d'argent dans la culture, on parle souvent des cachets des artistes, par exemple, ou on parle de ce que coûte la technique, l'allocation des projecteurs, etc. Et des subventions, on parle souvent de ça. Par contre, il y a tout un volet qu'on n'évoque pas. Quand il s'agit d'organiser un événement comme celui-là, aujourd'hui on est à Saint-Charles. Je prends l'exemple de Saint-Charles. On reçoit Adelin Schweitzer, qui travaille sur les marches. Il a reçu une petite subvention de 8000 euros pour faire sa prestation. Il faut savoir qu'on a besoin de bloquer la route à un moment donné pour laisser passer un SMI et installer l'écran. Donc il va nous falloir des policiers. On a besoin d'éteindre les luminaires. Donc on a un gros partenariat avec la ville. Quelque chose de fantastique s'est produit, c'est qu'on a eu toutes les autorisations. On a vraiment un vrai soutien de la ville. Maintenant, ce soutien-là n'est pas gratuit. Et moi, je reçois évidemment toutes les factures. Et bah, par exemple, je peux vous annoncer, c'est important de le dire parce que c'est l'argent des gens, c'est notre argent et comment il est réparti. L'intervention de la police pour bloquer la route, chaque soir, c'est 500 euros par soir. Hein. C'est 5 personnes à 15 euros de l'heure, plus un brigadier à 18 euros de l'heure. Hein, 500 euros par soir, donc depuis dimanche, ils seront là 4 soirs. Le nettoiement, on a besoin de nettoyer la chaussée, on a besoin de bacs, il y a des nettoyeuses, ça va nous coûter 2948,65 €, voilà, de services de nettoyement. Il y a un compteur électrique, c'est autour de 300 euros, on nous amène des barrières aussi. Et l'extinction des lampadaires, alors ça c'était tout à fait, j'étais assez surpris de cette note-là. On a besoin d'éteindre 9 lampadaires pour pouvoir utiliser notre lumière. Il s'agit de baisser 9 disjoncteurs. Et là, on doit payer 1400 euros pour ces 9 disjoncteurs. Voilà. Je trouvais nécessaire de parler de ça, puisque c'est aussi la répartition de notre argent public. Et je vais juste finir. Adelin Schweitzer, lui, travaille depuis le 20 août sur son expérience qu'il nous propose. Et je lui ai demandé combien il touchait, lui. Il aura touché 300 euros net. Voilà. C'était bien. trouve ça important de le préciser, parce que les artistes, finalement, finalement touchent pas tant que ça par rapport à tout l'argent qui est dépensé autour de ces événements. Voilà.
Merci David de ces éclairages particuliers, donc du point de vue du directeur technique et de l'argent. Ça t'inspire quelque chose, Olivier, ces coûts, notamment pour baisser les disjoncteurs?
Alors, moi, je n'organise pas tout ça. Comme moi, je suis invité, alors je ne vois pas forcément tout.
Mais
tout
en
ça.
Tant que contribuable, enfin, c'est pas sûr que tu payes des impôts en même temps. Mais...
Non, moi, comme il disait, les artistes, on est quand même un peu les derniers à être servis sur le gâteau de la culture. Je pense que c'est. On voit pour plein de choses, ben, voilà, y a plein d'intermédiaires. Et que. Souvent, on nous propose, surtout en tant que quoi, moi je vois en tant que plasticien,
essaye de garder le micro. De...
on nous propose souvent de nous payer un vernissage et des cartons d'invitation et en échange de mois et mois de boulot quoi. Donc ça c'est souvent le cas. Mais pas quoi, voilà. Moi je commence à arriver à me faire un petit peu payer aussi et peut-être que j'ai des coûts qui sont beaucoup quoi qui sont vachement réduits quoi, c'est-à-dire que dans mes interventions c'est du carton et du scotch et d'une certaine façon le coût du matériel en fin de compte est très moindre et le coût humain est un échange et un partage donc tout d'un coup j'évite pas mal de ces questions là.
Et tu arrives à te faire payer maintenant parce que peut-être tu sors du champ des arts plastiques pour te retrouver dans le champ des arts de la rue par exemple où l'économie est peut-être pas la même.
Alors, je pense qu'il y a ça, il y a aussi le fait que d'être aussi dans une démarche éphémère spécifique, déjà, ça devient plus évident d'être payé, alors que quand on monte une exposition, alors qu'on a fait des tableaux, des trucs, des machins, ça l'est moins, parce qu'a priori, tu les récupères, tes œuvres, donc voilà, tu peux être gentil et les prêter. Quoi.
David, pour terminer là-dessus et pour donner un complément d'information, tu me disais aussi des choses sur le fonctionnement des intermittents aujourd'hui, le fonctionnement par heure, ils ont des quotas d'heures à pas dépasser, des choses comme ça, qui du coup plombent complètement un fonctionnement.
Ouais, c'est un autre débat. Ça, c'est un autre débat. C'est le problème de notre secteur d'activité. C'est-à-dire quand on se retrouve dans la création, on peut pas nous imposer, des horaires normaux. Enfin, et le code du travail fonctionne évidemment différemment. On est obligé de l'appliquer. Ça veut dire pas dépasser 60 heures de travail dans la semaine. On doit avoir 11 heures de repos, 11 heures de sommeil entre deux journées. On doit avoir un jour off dans la semaine. Voilà, dans le cadre d'un festival, c'est évident qu'on peut
ça pas. Ça correspond pas du tout à la réalité du travail.
Pas appliquer ça, ça correspond pas à la création. Il se trouve que là, on est dans un festival de création. Ce sont que des premières. Nous-mêmes, on en fait une avec cette histoire d'écran et de semi-remorque. Forcément, quand on crée, on compte absolument pas nos heures, mais on n'a pas le droit. Voilà. Alors, si on veut être de bons élèves, il faut régler toutes les factures dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et puis, il faut se reposer 11 heures entre deux journées hein, et appliquer tout ça. Pour moi, on est dans un système qui tue l'art. Voilà. Voilà.
Merci, David, de cette intervention. On se retrouve avec Olivier après la seconde chronique signée Laurent Petit. Laurent Petit de l'Agence nationale de psychanalyse urbaine. Donc, on pourrait l'inviter lui aussi à se pencher sur une sorte de psychanalyse de la culture en France en ce moment. En tout cas, là, il nous propose plutôt la psychanalyse urbaine du Grand Marseille et du Grand Pas Marseille depuis vendredi dernier. Un feuilleton qui continue ce soir.
Bonjour à tous. Concernant la problématique du Grand Marseille, hein, ce projet de fédérer des communes autour de Marseille qui en serait la capitale, je veux savoir que le projet n'est pas très apprécié des villes avoisinantes, au point qu'à Aubin, on a organisé un référendum qui a montré qu'environ 95% de la population était contre le regroupement avec Marseille. À Martigues, c'est une pétition qui a rassemblé plus de 10 000 signatures. ils ont prononcé contre ce rattachement. À Port-Saint-Louis, ça a été un vote amassé, unanime du conseil municipal. Alors que, vous savez, c'est quand même un projet de fédération qui est nécessaire pour relancer le dynamisme économique de la région. Donc en psychanalyse urbaine, on a proposé des solutions comme la communauté urbaine d'agglomération de communes du Grand Marseille, le concept du QUAC du Grand Marseille. On a aussi imaginé fédérer les villes autour plutôt que de les fédérer autour de Marseille, de les fédérer autour plutôt de Martigues. Martigues, qui est quand même une ville qui a une bonne assise économique, qui a une bonne réputation de bien gérer son développement urbain. C'est une ville extrêmement, exemplaire au niveau de la gestion de ses affaires municipales. Mais plutôt que d'appeler le projet alternatif Le Grand Martigues, on a plus imaginé mettre en évidence l'étang de mer en baptisant par exemple le projet l'étang moderne, ou en mettant Berre au carré. Et Berre au carré, ça fait berbère. Donc les temps berbères, ça pourrait donner envie à toute la région de se rapprocher du Maghreb pour former une entité qui dépasserait les frontières et la Méditerranée. Cette option, les temps modernes ou berbères, pourrait peu à peu donner corps à une communauté de communes qui serait quelque part le Grand Pas Marseille, toutes les villes sauf Marseille, avant que Marseille, séduite par cette belle entente entre toutes les villes avoisinantes, se fédère au projet l'étang moderne pour former un méga projet qui s'appellerait par exemple Provence 3000. Provence 3000 projetterait toute la région vers l'année 3000, et ce dans la bonne humeur, dans la bonne entente. Et une sorte de bouillabaisse de ville, mais qui serait délicieuse à croquer.
Olivier Grostette, donc deux constructions monumentales éphémères à Martigues samedi dernier et à Aubagne samedi qui vient, demain. Le fardeau, c'était à Martigues. Le défi, c'était d'arriver à 25 mètres de hauteur. Alors, objectif atteint ou pas?
Non, on n'a pas eu la chance de battre mon précédent record parce qu'il y avait quand même pas mal de vent. On a dû se battre contre des rafales à 90 ou 100 km/h, donc ça faisait quand même pas mal. On était protégé jusqu'à 12 mètres, donc ça montait jusqu'à 12 mètres. Et puis après, dès qu'on a dépassé les bâtiments, il y avait 5 mètres au-dessus. Il y a des moments, la construction, elle décollait toute seule, donc elle a commencé à tanguer pas mal. Donc c'est, voilà, d'un moment, c'est tombé. Bon, ça fait partie du jeu. Hein.
Le précédent record, c'était 18 mètres, c'était
ouais,
où?
C'était 18 mètres, c'était à la Thèse de Bûche, près d'Arcachon. Voilà. Bon, après, je crois que là, ça devait être 17,50. On n'était pas très loin, quoi, parce qu'il y a les flèches. On compte toujours au niveau de la flèche, quoi. Alors, bon, je pense que c'est à peu près équivalent. Je pense que ça aurait pu largement... la construction se passait bien jusqu'à ces rafales un petit peu violentes, là, qui ont ébranlé...
Et l'enjeu d'aller toujours plus haut, c'est quoi, alors, pour toi?
Alors, c'est pas toujours plus haut, hein, parce que c'est vrai que ces constructions... C'est quand même des paris à chaque fois, j'essaie qu'il y ait un pari à chaque fois. Là, comme on travaillait deux fois avec le public, un petit peu aussi comme un entraînement pour... c'était un projet pour 2013, c'était essayer des choses. Donc d'un côté, pour que les projets puissent prendre plus d'ampleur, c'est essayer d'aller plus haut quand même, pour que tout d'un coup... alors déjà, 18 mètres ou des trucs comme ça, c'est pas mal. En carton, on arrive vraiment dans des rapports architecturaux qui vont pouvoir rentrer en confrontation dans l'espace urbain.
Qui sont à l'échelle de la ville,
ouais. Ouais, qui sont à l'échelle de la ville. Mais bon, ça reste quand même ridicule par rapport aux tours ou des trucs comme ça, ou des grands monuments. Donc c'est quand même essayer de grappiller un petit peu plus, quoi, voilà.
Ces constructions monumentales éphémères dans les villes, c'est toujours en carton?
Ouais, c'est toujours en carton, c'est toujours avec le public aussi, et je dirais c'est deux choses que je crois qui vont assez bien ensemble, parce que quoi, déjà, je trouve que le rapport architecture-carton marche assez bien, dans le sens déjà que quoi, une architecture, c'est un packaging de ce qu'on veut faire croire à l'intérieur. Une mairie, c'est beau, un HLM, c'est moche. Comme si c'était plus important la mairie, quoi. On fait bien croire ça, quoi. Mais ça reste un emballage vide. Mes boîtes de carton, c'est des emballages vides. Donc déjà, ce rapport-là, ce rapport aussi, bah, c'est un habitat souvent de fortune pour les plus démunis, parce que c'est un bon isolant, c'est un bon matériau. Et d'utiliser la boîte de carton comme un matériau de construction, quoi, voilà, c'est un truc que je trouve assez juste et qui, tout d'un coup, peut être offert à tout le monde. Voilà, un rouleau de scotch et des boîtes de carton, et ben voilà, on peut bâtir des édifices, des cathédrales.
Voilà, parce qu'à chaque fois, c'est collectif, il y a un pari de l'ordre du collectif là-dedans.
Oui, oui, à chaque fois, moi, quand j'interviens dans des villes, alors je dirais c'est petit à petit, on va dire, il y a un protocole qui s'est mis en place. On va dire.
Parce qu'il y a eu combien de constructions jusqu'à maintenant de ce type
Je crois que c'est à peu près la 18e à Martigues.
Ah ouais, pas mal. Ouais. Et t'as fait la France entière
Alors surtout dans le sud, sud-est, après un peu sud-ouest, un peu dans le nord, un peu au Canada, un petit peu en Italie. Voilà, ça
dans le monde entier.
Pas tout à fait encore entier. Voilà. Alors, en Italie, j'étais assez content parce que tout d'un coup, il y avait un rapport de langue. C'est quand même, toutes ces constructions, elles se basent vachement sur une transmission, sur, bon, même si c'est assez simple, comment scotcher, comment découper les trucs, mais... Donc, tout d'un coup, le faire dans une autre langue, pour moi, c'était un...
Donc, c'est le pari de déclencher une énergie collective qui va faire aboutir...
Ouais, parce que moi, j'arrive, quoi, je suis tout seul pour initier ces projets, quoi... Et si je reste tout seul avec mes petits cartons, j'avais l'air d'un con, quoi. Ça peut pas marcher. Donc, maintenant, une petite stratégie comme ça que j'établis, c'est que quand j'arrive dans une ville, je fais des ateliers un petit peu avec des écoles, avec des centres aérés, avec des hôpitaux de jour, des hôpitaux psychiatriques, des gens en réinsertion, différents types de publics, en tout cas. Ces ateliers, ils ont un double but, on va dire, déjà de préparer un peu des éléments un peu complexes de la construction qu'on ne pouvait pas faire au dernier moment. Et j'irais surtout de commencer à faire rêver un petit peu, de faire exister ce projet par d'autres personnes qui se l'accaparent en scotchant des cartons, en fermant des cartons, en les taillant un petit peu et tout ça. Et ce bouche à oreille fait que... Le jour où on donne rendez-vous, ben, y a un petit peu de monde qui vient au début. Puis après, ben, ça, déjà avec peu de monde, on arrive à faire des choses un peu impressionnantes. Les gens, se demandent ce qui se passe, viennent et ils deviennent nécessaires pour que la construction soit plus longue. Donc, quoi, j'aime bien ce rapport là d'inverser un petit peu en demandant aux gens. Les gens deviennent vraiment nécessaires. C'est-à-dire que on ne fait pas semblant. C'est-à-dire que s'ils ne sont pas là, la construction ne se fait pas.
Et la forme de la construction est déterminée comment? Parce que, bon, à Martigues, c'était un phare d'eau en deux mots, donc on voit bien aussi que tu aimes bien t'amuser avec les mots, les jeux de mots, tout ça. Et comment ça se passe? Chaque fois, ça a un lien avec la ville, avec un élément architectural de la ville où tu interviens ou...
Ouais. Alors moi, je dirais, c'est toujours des pièces faites pour l'endroit, le lieu, donc... je dirais, c'est moi qui fais les plans, qui décide un petit peu... on va dire la pertinence, je trouve, de voilà. Comme avec quoi, par exemple à Martigues, comme j'avais un peu deux envies, c'était justement d'aller un peu plus haut, puis une autre là justement qui était sur Bagne, qui était de sonoriser un petit peu la construction. Donc voilà, Martigues se prêtait plus à un truc en hauteur, le phare, parce que c'est au bord de l'eau et que c'est assez beau en plus le reflet d'eau dans ces constructions, donc voilà, c'était un petit peu... C'était plus juste, et par rapport en plus à l'objectif que je m'étais fixé, d'essayer de battre un record, donc ben voilà, pour battre un record, c'est plus simple de faire un phare que de faire une grande cathédrale, quoi, par exemple, pour juste de la hauteur, quoi.
Et dans les autres villes où tu es intervenu, c'était quoi comme architecture alors que tu as monté?
Alors, il y a différentes choses, j'ai monté une grue, j'ai monté des bâtiments... à Annecy, c'était l'Impérial. Quoi. J'ai fait une réplique de l'Impérial dans un autre bâtiment. À Aix, j'ai monté un pont. J'ai fait un grand pont qui passait par le cours au-dessus du cours Mirabeau. Là, il y avait un défi technique, on va dire, qui était d'arriver à faire un porte-à-faux depuis quoi. Voilà, l'arche faisait plus de 9 mètres de diamètre, quoi, à l'intérieur, pour passer par-dessus le cours. Voilà, donc là c'était possible parce que j'avais fait une résidence avec le lycée militaire. Donc il y avait, j'étais sûr d'avoir au moins un minimum de troupes pour m'aider à faire cette construction, parce que c'était vraiment là que des coupes de partout qui étaient un peu plus complexes.
Ouais, il faut des compétences d'architecte quand même pour. Même avec des cartons.
Ouais, ouais, d'architecte. Moi, j'ai jamais fait d'études d'architecte. Après, j'ai fait un peu avant les beaux-arts des études mécaniques. Ouais, alors j'ai un sens peut-être mécanique, pratique, de la mécanique. Moi, c'est une charpente, qu'elle soit en bois ou en carton, c'est la même chose, quoi. C'est ce qui me plaisait pas mal, c'est plus la forme qui donne les capacités mécaniques, physiques d'une chose, plus que la matière, quoi. Et voilà, un tube en papier, quand il est roulé, bah, c'est costaud, quoi. S'il est à plat, la feuille, elle se déchire, elle flotte. Mais bon, si on la roule, ben oui, ça peut être super serré, ça peut être super costaud.
Et comment s'est née l'idée de ces constructions monumentales et collectives, alors, dans ton travail?
Alors, c'est venu, comme vous l'avez évoqué, la première étape, c'était de sortir déjà un peu de l'espace protégé, on va dire, des galeries ou de l'école. Moi, c'est quand j'étais à l'école, où j'ai écrit plus de 6000 fois assez du travail, et que j'ai déposé devant l'hôtel des impôts le dernier jour de la déclaration d'impôts. Alors, c'était un premier geste, déjà, c'était de... Pour moi, là, ce truc-là, c'était de revendiquer... moi, ce qui m'intéressait, c'était de faire exister une idée. Quoi. C'est ce lien, je pense que l'artiste, il est là, entre le réel et l'idée, l'imaginaire. Et c'est comment arriver à faire vivre cet imaginaire en serrant du réel et faire cet aller-retour, quoi, comme ça. Et le fait de répéter plusieurs fois la même phrase, une phrase performative, comme ça, ça devenait ce que ça disait. Il y a aussi souvent, c'est quoi ton travail? Ben, moi, mon travail, c'est dire que c'est du travail, quoi. Déjà, ça on est, ça on devient, au bout d'un moment. Donc, il y a un truc comme ça qui était intéressant. Et puis, ça... C'était tout près de ce moment-là, le moment où on doit déposer notre déclaration d'impôt. Il n'y avait pas encore Internet et tous ces trucs-là, donc il fallait vraiment se déplacer pour ou la poster en avance, ou je ne sais pas quoi. Mais comme c'est une démarche qu'on refuse, qu'on a un peu du mal à faire, il y a beaucoup de monde le dernier jour, quoi. Et donc c'était ma première exposition avec un succès fou.
Il y avait déjà Internet, mais pas pour les impôts.
Ouais, peut-être ouais, pas. Ouais, c'est en 98, je sais pas. Au moins,
c'était au début.
Ouais, mais en tout cas, j'étais pas du tout là-dedans. Et voilà. Après, voilà. Donc, déjà, le fait de mettre un travail dans un contexte urbain, en fonction où on le place, il y a un sens qui intervient avec le travail. Ça m'intéressait. Et après, il y a eu un changement de mairie. Il y a eu plein de subventions qui ont été sucrées et tout comme ça, mais la mairie a tenu à éclairer sa mairie. Voilà. Et elle éteignait à minuit. Alors, je trouvais que c'était assez comique. Je me dis, bon, ça fait Walt Disney, on va rajouter des tours en carton. Voilà. C'était un peu ce truc-là. C'était une façon, au début, de pouvoir faire quelque chose de très grand en carton, un côté un peu économique. C'était clairement le symbole du faux, du dérisoire, et essayer de se confronter à l'image d'un pouvoir, se l'accaparer comme ça avec quelque chose de dérisoire. Alors au début, moi je montais ça dans mon coin, au Beaux-Arts, comme ça. Donc je squattais le hall du Beaux-Arts pour préparer mes tours, mais je faisais quand même ça dans mon coin. Et par contre, pour le monter, j'avais pas d'autorisation, donc j'ai demandé à plein d'amis de venir, et j'ai donné rendez-vous. Il y a eu pas mal de monde qui est venu. Mais il pleuvait, il y avait du vent. Donc j'ai dû reporter cette intervention au lendemain. Le lendemain, il y avait à nouveau du vent, mais il y avait à nouveau plein de monde aussi. Et je me dis, bon, ben, on ne va pas reporter 36 000 fois. Je me suis lancé dedans. Et on a essayé de monter le truc pendant 2-3 heures. Le truc se cassait là, parce que je construisais moins bien quand même à l'époque. ça marchait bien en intérieur. En gros, c'était presque que de la surface, du carton collé ensemble, qui tenait sur la tranche. Alors ça marchait très bien en intérieur, sans rien de vent, mais dès qu'il y a du vent, un coup de vent, ça se cassait la gueule. Et le monde extérieur, quoi, des gens qui passaient, venaient nous filer des coups de main pour essayer de monter le truc. Et petit à petit, je me dis, il y a un truc quand même à jouer. Donc après, petit à petit, je me suis perfectionné dans mes constructions, et j'ai mis ma stratégie en place. Mais le fait de de construire par le à l'envers en gros pour que les structures puissent être autonomes et grandes sans échafaudage, sans rien. Et en fin de compte, bah, je construis le haut d'abord, la structure, et puis on soulève la structure avec le monde et on rajoute des cartons par en dessous, ce qui permet de monter jusqu'à 18 mètres sans grue, sans échafaudage, sans justement moyen qui part justement une location d'une grue. Alors, j'imagine même pas combien ça doit coûter pour une journée, quoi.
Vu les tarifs dont on vient de faire part, ouais.
Voilà, donc c'est des trucs en plus, voilà, il faudrait bloquer des rues, des trucs, quoi, voilà, ça devient vite, je pense, exorbitant. Et là, ça reste des moyens humains, quoi. Il y a justement une dimension très humaine dans ces constructions, mais qui nous dépasse aussi. Il y a une énergie collective qui, tout d'un coup, est super agréable.
C'est une autre économie.
Ouais, c'est une autre. C'est sûr qu'il y a autre chose qui se passe, quoi. Moi, j'ai toujours aimé un peu ces trucs-là. J'ai jamais compris pourquoi il y en a qui crevaient la dalle pour des bouts de papier. Vous parliez de collage, mais j'ai fait aussi des collages avec mes billets de banque, des billets de banque de plein de pays différents. Parce que ça n'a aucune valeur. Ça n'a aucune valeur en soi. Ça veut bien. C'est la seule valeur qu'on veut bien y mettre, quoi. Alors, c'est sûr qu'on a besoin d'échanger. On ne peut pas faire tout seul. On est des êtres sociaux et voilà, c'est des individus sociaux, c'est notre grande difficulté.
On est en compagnie d'Olivier Grostet dans Small is Grenoutiful, où on parle de Small is Beautiful. On fait une pause musicale avec Mazalda, on les a déjà entendus hier. Ils seront ce dimanche 16 octobre pour la clôture de Small is Beautiful à Saint-André avec leur Turbo Clap Station. 50 haut-parleurs, ingénieurs du son, le public au milieu de tout ça. Et ils envoient la sauce, on écoute donc un second extrait. Nicolas Mémin est urbaniste gonzo, montreur d'ours en béton. Il nous propose une promenade par jour depuis le début de cette émission. Alors hier, il nous a mené du côté du boulevard National. On sortait du métro National, on remontait le boulevard National, on tournait à gauche, c'était la rue Julien, et on tournait à droite, c'était la rue Jouvenne. Et il nous a mené dans cette rue Jouvenne dont il nous a décrit en premier le contexte historique, c'est-à-dire des endroits où il y avait des industries qui puaient beaucoup à cet endroit-là, notamment une teinturerie, les teintureries Julien. Mais il y avait d'autres fabriques de cet ordre-là qui puaient et qui envoyaient leurs effluents donc 1,50 m plus bas de là où ils se trouvaient, c'est-à-dire ce qui s'appelle la rue Jouvenne aujourd'hui, qui est une sorte d'égout recouvert. On a été arrivé là hier et aujourd'hui on avance dans la rue et il nous décrit ce qui se trouve de chaque côté de cette rue.
Vous sortez au métro National, sortie du métro, vous remontez le boulevard National et c'est première à gauche rue Julien, première à droite rue Jouvenne. Donc vous voici rue Jouvenne, que sont les immeubles à droite et à gauche? Alors quand vous arrivez sur la droite, vous avez un HLM fin des années 70, très gris, jamais nettoyé depuis, avec des enduits à la tyrolienne très épais, donc ça grisouille bien. Et puis ces HLM, comme on les faisait à l'époque, on les voulait un petit peu plus urbains, il fallait casser la barre, donc il n'arrête pas de monter, descendre, avancer, reculer. Et il a une écriture finalement assez abstraite de lignes, hein. L'architecture c'est ça, c'est des lignes horizontales, verticales. Et lui, personne ne le regarde, mais il est là dans son gabarit, il doit monter à 7-8 étages de haut. Et en face de lui, il y a, ce qu'était ce quartier-là, des fabriques, des hangars. Les murs sont montés en moellons cyclopéens, les toits en tuiles marseillaises, des grands toits très très larges pour pouvoir avoir des grandes salles sans portée. Et tout ça, ça a vieilli, ça se patine doucement, il y a des plantes qui poussent dans les caniveaux et les gouttières. On continue vers le milieu de la rue. Sur la gauche, vous avez une toute petite courée. Alors ça, c'est caractéristique de l'habitat ouvrier marseillais de la fin du 19e et jusqu'en 1930, on a ça. C'était le mode d'habiter des ouvriers lorsque c'était un petit peu organisé. Alors on ne peut pas y aller directement, il y a une grille, mais à travers la grille, on voit ça fait une espèce de petite impasse qui passe sous un immeuble et au fond de l'impasse, tout le côté gauche, c'est des espèces de cabanes un peu solidifiées. Vous voyez très bien une série de... c'était des logements, c'était des maisons, donc on en a 3 ou 4 à cet endroit-là. Et vous avez juste alors la porte au milieu, et je vous décris l'intérieur parce que j'ai vu les plans. On rentre, on est directement dans une grande salle, qui est la salle commune, qui est à la fois cuisine, séjour, salle de bain. Et à gauche, un petit réduit où vous avez la chambre et tout ça, c'est orienté sur une impasse, il n'y a pas de fenêtre à l'arrière, donc vous ne pouvez pas faire de courant d'air ventilé, c'est pas très sain, c'est au fond, c'est en bas, au rez-de-chaussée, près du sol, humide, voilà, humide, ombre. Et cette forme d'habitat typique des ouvriers marseillais, vraiment très humble, très pauvre, mais c'est vraiment l'histoire de notre ville et de comment s'est passée la vie à ces endroits-là. On a beaucoup d'histoires sur les émigrés italiens et comment ils vivaient, comment ils acceptaient d'être payés moins cher que les Marseillais. Donc les Marseillais faisaient la gueule et ça explique aussi leurs conditions de vie très très pauvres. En face de cette courée, sur la droite, vous avez les grands entrepôts de la fonderie Readings, qui a été une fonderie fondée dès la troisième quart du 19e siècle à cet endroit-là. C'est la marque de la première révolution industrielle à Marseille, celle de la vapeur. Fonderie, c'est faire des pièces en métal, et c'était les pièces en métal qui servaient à faire les grandes chaudières à vapeur. C'était ici, ça s'est passé à cet endroit-là, et la moitié de l'usine a été démolie l'année dernière. Donc voilà, ça c'est la suite de la rue, on continue, on est presque au bout. Sur la droite, vous avez un immeuble neuf, le National, j'ai oublié le promoteur et l'architecte, qui est un truc que vous pouvez encore acheter, je pense, certains appartements à l'intérieur. Avec un grand couloir central, à nouveau des appartements mono-orientés, mais avec la ventilation, c'est des petites surfaces, c'est de l'accession à la propriété pour les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent. C'est un immeuble qui donne à la fois sur la rue Jouvenne et sur le boulevard National. Et en face de lui, à gauche dans la rue, encore des vieilles usines, des vieux hangars que j'ai pas réussi à identifier. Donc je vous fais le résumé de la rue Jouvenne. C'est un égout à ciel ouvert qui a été recouvert. Et dessus, vous avez des usines d'activités sales qui depuis ont fermé, des HLM des années 70 et de l'accession à la propriété des années 2010. Il y a à la fois rien à voir et tout à comprendre. C'est un espèce de portrait en résumé de la ville de Marseille. Et surtout, à cet endroit-là, vous avez cette espèce de décrépitude et de laisser-aller. Encore une fois, c'est l'herbe entre les pavés. Vous avez ce collage des formes, les grandes, les petites, qui se collent les unes à côté des autres à plusieurs générations d'intervalle, avec des écritures différentes et des activités différentes. Et ça, c'est ce pittoresque des villes. C'est ce que les anciens, les architectes beaux-arts de la fin du 19e ont réussi à théoriser un petit peu comme étant l'éclectisme, qui est que pour qu'une ville soit agréable à vivre, il y faut un maximum de diversité. Là, vous l'avez. Et le plus important, je pense, c'est ce caractère de faubourg, d'anciennes limites de la ville, de petites choses humbles, mal fagotées, un peu sales. C'est la lumière des faubourgs, c'est ce qui a fait la fortune de Dickens, c'est la vie de Bohème, de Murgère, et c'est aussi ce qui explique le succès dans le monde entier du réalisateur de films finlandais Aki Korismäki.
Olivier Grostette, j'ai vu que tu écoutais attentivement cette balade proposée par Nicolas Mémin. Tu as aimé la promenade ?
Ah ben, on s'y prend, hein.
Voilà. C'est une pratique que tu as, ça, toi, la promenade urbaine, un peu te laisser embarquer dans les rues, tout ça, essayer de comprendre.
Que j'ai eu peut-être, que j'ai peut-être moins maintenant, parce que j'ai une petite fille aussi, alors tout d'un coup, on a moins le temps de passer son temps à
aérer. De flâner.
Ouais, de flâner, comme ça, voilà. Donc le temps avec des enfants est tout d'un coup plus timé, donc voilà, moins le temps de...
Bon, Nicolas aussi, il a une petite fille, il flâne toujours, j'en profite pour passer un petit bonjour à Charlie, je me permets. Donc, Olivier, on parlait de tes constructions monumentales en carton, donc avec des échelles qui permettaient de rentrer en jeu avec les échelles urbaines dans des villes dans lesquelles tu interviens. Ces constructions monumentales sont éphémères, c'est-à-dire elles sont construites dans la journée et détruites dans la journée. Pourquoi tu les détruis ? C'est parce qu'autrement, la ville ne serait pas d'accord, elle serait obligée de faire, elle, le ménage et ça coûte trop cher ou...
Alors, c'est pas toujours monté et détruit dans la même journée, ça dépend, c'est pas toujours la même possibilité. Après, c'est vrai que ça dépend de plein de choses, des autorisations qu'on peut avoir ou non, le financement aussi, et tout ça, parce que d'une certaine façon, si on laisse longtemps, au bout d'un moment, il faut le gardienner, il y a des problèmes de... ça peut représenter un danger. Justement, avant Martigues, juste avant, j'ai fait participer aux 20 ans du cratère à Alès, et on a construit un peu une réplique du palais de justice qui est juste à côté du cratère. Voilà, donc il y avait une tonne de carton qui était juste à côté du palais de justice. Donc si on laisse ça pendant une semaine sans truc, alors moi ça me dérange pas, mais pour des organisateurs ça peut.
D'accord, donc c'est une dimension plus pratique, utilitaire, qu'un rituel un peu...
Il y a un côté comme ça...
Catharsis...
Ça dépend, justement, les autorisations qu'on peut avoir. Après, le contexte, il y a une construction, là, par exemple, que j'ai laissée plus de... mais alors, c'était dans la montagne, dans un petit village à Saint-Paul-sur-Ubaye. Et on a fait une petite bergerie, comme ça, qu'on a étanchéfié, le toit, avec du scotch. On a mis des trucs, ça devient vraiment une petite construction. Et alors elle a tenu un mois, je sais qu'au bout d'un mois je suis allé voir, elle tenait toujours, et il y a une partie qui est tombée parce qu'il y avait un petit pigeonnier comme ça qui est tombé, mais a priori les habitants l'ont rescotché, et j'ai eu des nouvelles là, a priori elle tient encore, donc voilà, il y a possibilité aussi de cette vie là, mais après c'est vrai que si on peut pas le laisser longtemps, de toute manière là justement à Martigues ou à Aubagne, c'est des festivals qui sont sur un temps assez court, ben je préfère que ça soit construit et détruit dans la même journée, tout d'un coup, ça devient justement la destruction devient aussi fait partie de l'œuvre, il y a aussi une énergie qui est mise en œuvre à ce moment-là et que je trouve assez, assez belle. C'est comme le château de sable qu'on détruit. Alors, il y a en même temps un pincement au cœur et en même temps une grande joie de tout casser, mais qui, quand on casse ce qu'on a fait, c'est assez positif. C'est pour laisser place à la prochaine. C'est pas, quoi, voilà, vouloir absolument rester. Il n'y a que les hommes politiques au pouvoir qui le veulent. Quoi.
Alors, ce samedi à Aubagne, la construction, ça ne va pas être un phare, ça ne va pas être un pont, ça ne va pas être une bergerie, ça va être une abstraction géométrique, opus 1. Alors, ouais. Opus 1, c'est sûrement parce que pour la première fois, il va y avoir du son qui va intervenir, ouais, ouais. Il y a un petit côté musique comme ça. Et abstraction géométrique, c'est quoi alors ?
Ouais, ouais, voilà. Alors, c'était justement pour Aubagne, le désir. Qui m'a un peu poussé, c'était justement essayer de sonoriser ces constructions. Parce que quand il y a 200 personnes qui scotchent en même temps, ça fait du bruit. Ce bruit, ben, il suffit de le rythmer un peu pour que ça devienne un peu autre chose. Donc voilà, c'était un petit peu cette envie-là. C'est aussi parce qu'on travaille avec le public, comme je disais, pour 2013, qui serait en gros faire peut-être un quartier, une ville entière, donc de bâtir pendant un temps, et je pense que tout d'un coup la musique ou le son peut aider à maintenir cette énergie sur le temps. Pour l'instant ça se passe très bien sur une journée et tout ça, mais sur trois semaines ou je sais pas quoi, ça peut-être s'essouffler. Voilà. Donc voilà, essayer d'apporter une dramaturgie aussi tout d'un coup, dès qu'il y a un petit peu de son, il y a une dramaturgie qui va s'y mettre, tout en gardant cette spontanéité de cette énergie qui vient. Voilà, ça va être un peu le pari d'Aubagne. Donc pour que je dirais des musiciens puissent travailler sur ce matériel sonore qui va être dégagé de ces constructions, il fallait une construction assez simple où on se perde pas trop dans « Ah tiens, il faut vraiment que le carton il soit là ou là ». Donc ça va être une forme assez simple. Au début, je voulais faire vraiment une forme même presque carrée, quoi, comme ça. Et en fin de compte, à Aubagne, il y a eu le Pénité Blanc là, qui nous accueille, qui était, il y a eu un engouement, alors j'ai complexifié un peu la forme quand même, mais j'ai voulu que la construction soit assez simple et pas forcément rattachée à un truc. Alors si on veut, ça peut être une tour, quoi, ça va être un gros cylindre, quoi, voilà, complexifié, parce que pourquoi on va faire un cylindre, bah, il faut quand même tailler des cartons et tout. Donc comme il y avait cet engouement, bah, j'ai essayé de répondre à cet engouement en proposant une autre forme, voilà, un peu plus complexe, mais qui va rester simple. Parce qu'une fois que le début est mis en œuvre, ben, ça va être assez répétitif, sauf que quoi, ça va être des cycles en tout cas. Voilà, ça va être cyclique. C'est-à-dire que ça va pouvoir jouer sur des boucles ou sur des trucs comme ça, et peut-être rentrer dans quelque chose de musical avec quelque chose qui monte, peut-être à la sorte boléro, quoi. Voilà.
Qui sont les musiciens qui vont travailler avec toi là-dessus ?
Alors, c'est Nicolas l'Espagnol Lezzi et Guillaume Cross. Voilà. Alors, qui ne sont pas marqués dans le programme parce qu'on les a choisis un petit peu au dernier moment. Voilà, non. Quoi, il y a eu un petit peu. Qui prendre pour ça ? Alors, pendant un moment, on voulait prendre une personne, mais tout d'un coup, je me disais, ben non, c'est comme il y a une énergie collective, il faut qu'il y ait deux personnes au moins, que ce soit une rencontre, que les gens découvrent aussi quelque chose, qu'ils aillent dans des directions qu'ils n'ont jamais prises. Quoi. Voilà. Et donc, c'est deux personnes qui n'ont jamais travaillé ensemble, qui tout d'un coup se retrouvent. Alors, moi, je connaissais Guillaume Cross, alors je voyais un petit peu son univers. On m'a proposé Nicolas, et j'ai entendu un petit peu ses trucs. Il y a un côté aussi de peut-être plus bruit, quoi, prendre le son, et Guillaume peut-être un peu plus mélodique, comme ça, et donc il va avoir une croisée comme ça, qui on va voir.
Tu leur donnes un cahier des charges ou pas?
On a beaucoup parlé de certains trucs. Alors ils travaillent un petit peu, ils sont venus à Martigues pour voir comment ça se passait, pour prendre des sons aussi, un peu préparer un peu quelques trucs. Ça va être beaucoup d'improvisation, on va voir aussi un peu sur place. Voilà, moi j'ai parlé de ce que je voyais, comment ça se passait, ces constructions, pour qu'ils puissent soit aller contre, soit avec. Et voilà, après ils me font voir les propositions, on réajuste un petit peu ce qui me semble juste ou non. Et puis voilà, ça va être un essai. C'est un peu, c'est un peu un coup d'essai. on peut se permettre ça, génial.
Et ce sont des constructions qui, je crois, donnent lieu à des vidéos. C'est-à-dire que là, on a parlé de cette pratique-là, ces constructions monumentales, collectives, éphémères que tu organises. Mais ta pratique d'artiste ne se résume pas qu'à ça. Et notamment, tu développes tout un travail de vidéos, et pas forcément autour de ces constructions-là. D'ailleurs, il y a quelque chose qui s'appelle bateau ivre, par exemple, qui est un grand bateau à papier où ça joue sur la confusion des échelles aussi. Puisque c'est un bateau en papier qui est mis en jeu dans des séquences de films, mais qui a une échelle tout à fait un bateau où les gens peuvent rentrer, tout ça. Quoi.
Ouais. Alors c'est vrai que j'ai plusieurs facettes dans mon travail, mais je pense que c'est de plus en plus d'artistes ont plusieurs directions. Essayer de lutter un peu contre les carcans, parce que dès qu'il y a quelque chose qui marche, on a envie de nous mettre dans des cases et lui c'est le constructeur en carton, voilà, c'est rassurant pour tout le monde. Je colle aussi des amendes, de la vidéo, des trucs. Alors c'est vrai que déjà ces constructions, ces levées sont assez beaux et c'est à chaque fois filmé déjà pour garder une trace. Mais même, ces traces, elles parlent d'autres, elles parlent de quoi. C'est émouvant de voir ces constructions se lever, tomber. Il y a de l'émotion qui s'y passe. Donc elles ont une autre vie après en vidéo, quoi, voilà. J'ai un petit peu un but, vu que maintenant ça fait plusieurs constructions, c'est arriver à montrer, quoi, à faire peut-être un plus long film, quoi, avec toutes ces constructions. Après, j'ai développé, c'est vrai, ce bateau en papier, comme ça, pour moi, c'était toujours ce symbole de. Je vous parlais d'imaginaire, de réel, c'est comment on peut. C'est les interactions qu'on peut avoir. Et je trouve que c'est assez magique de se rendre compte que quand on voit ces images, on voit plus facilement un petit bonhomme qu'un grand bateau. Quoi, voilà, parce qu'on est tellement, on a tellement envie d'y croire, quoi. C'est pareil, j'ai une image comme ça du pont suspendu. Vous parliez un petit peu tout à l'heure, j'avais fait une maquette de pont suspendu avec, pris littéralement au sens du terme, mais c'est un pont en balsa qui est suspendu à des ballons d'hélium et qui flotte dans un espace d'exposition. Mais pour prendre des photos comme ça, une fois je l'ai mis en extérieur et il y a juste le ciel bleu. Et on imagine qu'il est très grand. Alors j'aimerais bien un jour pouvoir en faire un très grand. Voilà, là ça va demander quand même un peu des financements. Je vais, un petit truc comme ça, l'année prochaine, faire une passerelle, un peu sur ce même principe, un peu plus grand, à Manchester. Donc il faudra se balader un peu par là-bas. Il y a une autre vidéo comme ça, vous parliez, que j'ai fait avec ma compagne. C'est un lever de lune, comme ça, où ça se passe sur 26 minutes, le temps que la lune se lève. Ma compagne tient la lune dans les mains. Ma compagne tient la lune dans les mains et la jette au basket, quoi. C'est une façon de s'accaparer les trucs. Toujours sur ces limites entre le rêve et le réel.
Entre le rêve et le réel, et ça ressemble pas mal à des jeux d'enfants, tout ça.
Ça, je pense que c'est un peu. Quoi, l'enfance, c'est un peu là où on croit aux choses, quoi. Et je pense que c'est important, on a besoin de rêver, quoi. Je sais pas, il y a un petit peu. Notre monde en a besoin de plus en plus, je pense, parce qu'on essaye de nous enfermer, de qu'on soit des machines, des trucs qu'on jette et tout, et non, quoi.
Jeu d'enfant, mais aussi un rapport à l'autorité un peu...
Un peu musclé.
On parlait de l'hôtel des impôts tout à l'heure, les lettres de refus d'embauche qui finissent en montgolfière, les PV impayés qui finissent en avion ou en poulet ou...
Après, je pense que dès qu'on veut rêver, on se confronte à l'autorité, quoi. Mais d'une certaine façon, l'autorité, c'est aussi un jeu d'enfant. C'est toi, tu fais ça, on dirait que ça, quoi. C'est des règles qui sont fixées. Quand on est gamin, les règles, quand elles marchent plus, on fait... pousse et on change, quoi. La société, c'est que des règles, c'est qu'un jeu comme un autre, avec certains qui essayent de faire les règles parce que ils veulent s'en foutre plein les poches c'est
un jeu de société, hein.
C'est un jeu de société, voilà. Alors après, je pense qu'on peut tous changer de règles, et je pense que dans ces constructions, j'essaye de proposer un autre type de règles, quoi, voilà.
Merci Olivier Grostet d'avoir passé cette heure en notre compagnie. Donc je rappelle qu'Abstraction géométrique opus 1, c'est l'élévation demain à Aubagne à partir de 14h30, c'est cours Voltaire, et la destruction aura lieu à 19h. La destruction est programmée là.
Là c'est programmé, et puis il nous faut du monde aussi, parce qu'on a besoin de la faire danser un petit peu.
Les beaux parleurs sont des crieurs de rue. Ils annoncent les manifestations de Small is Beautiful dans les villes traversées par la manifestation. Ils offrent des poèmes, des choses comme ça. Sur la grenouille, tous les soirs, ils nous offrent un proverbe à titre, un extrait du grand fictionnaire de Jean-Georges Tartar et un agenda du lendemain.
Titre transport exceptionnel. Farid, s'il te plaît.
Mieux vaut un transport exceptionnel qu'une smart décapotable. Le mot du fictionnaire.
Des beaux parleurs.
Non ! De Jean-Georges Tartar !
Émotion, voire empalement. Empalement, supplice par lequel on prouve aux spectateurs que, topologiquement, l'homme est un tuyau. L'agenda du jour ? C'est du lendemain !
Samedi 15 octobre à Aubagne, de 11h à 22h, passage de spectacle. Entre fer et chair, abstraction géométrique opus 1, transport exceptionnel de la mission Roosevelt step by step. À vous de jouer, 100% des gagnants ont tenté leur chance. Règles du jeu disponibles sur www.lieupublic.com ou au point info Cour Foch à Aubagne. Navette gratuite depuis Marseille, départ 19h, place Castellane devant le cinéma Le César.
Les beaux parleurs.
Demain, même heure, même zone, nous serons en compagnie de Christian Potiron, directeur adjoint de Cosice, capitale européenne de la culture en 2013, elle aussi. Pedro Garcia, directeur artistique du festival Chalon dans la rue. De Hugo Berks, qui est chef de projet au Theater Op der Markt, c'est en Belgique. Et de Pierre Sauvageau, directeur de Lieux publics, une émission autour de la création en espace public en Europe. L'art dans la ville, c'est aussi sur le 888 Evento à Bordeaux, de rendez-vous quotidien jusqu'au 18 octobre sur notre antenne à 9h30 et à 11h. Inventaire désinventé et l'éventail d'Evento. Toutes les infos, des sons et des émissions en écoute à la carte sur radiogrenouille.com. Merci à Sébastien Gély à la technique et bonne soirée à toutes et à tous.